Le Seigneur nous a placé devant le chemin de la vie et le chemin de la mort. Bien que par la grâce prévenante et adjuvante qui nous invite au chemin de la vie, nous pouvons choisir l'un des deux chemins. Après notre choix, Dieu respecte sérieusement notre liberté, sans cesser d'offrir sa grâce sanctifiée ici sur terre, même à ceux qui se séparent de lui. En réalité, il faut dire que Dieu respecte ce que nous avons voulu faire librement de nous-mêmes, soit en acceptant la grâce, soit en la refusant. En ce sens, il sait le salut que la condamnation commence ici, sur terre, en tant que l'homme, par ses décisions morales, s'ouvre ou se ferme librement à Dieu. Par ailleurs, la grandeur de la liberté humaine et de la responsabilité qui en découle devient clairement manifeste.
Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail du texte, notamment la différence entre grâce prévenante et adjuvante. Ce serait tout un développement. Mais ce que nous dit le texte ici, c'est à la fois que la grâce de Dieu, et j'y reviendrai dans la troisième partie, est vraiment à l'œuvre au sein de notre vie et de notre vie croyante, mais que ça n'est pas une déresponsabilisation. Et que nous avons toujours à veiller sur nous-mêmes et à veiller sur les autres aussi. On ne peut pas oublier ce mot du Seigneur après le meurtre d'Abel à son frère Caïn. « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et ça, c'est quelque chose qui doit nous habiter, peut-être même qui doit un peu nous angoisser. Vous savez, il y a des bonnes angoisses aussi. On dit que Saint Dominique, dont on a l'icône ici, sur votre gauche, était angoissé du salut de tous les hommes. On peut être angoissé de se demander « Mais qu'est-ce que je fais de ceux qui me sont confiés d'abord ?» Et même, qu'est-ce que je fais de tous ces hommes qui sont autour de moi pour les aider à avancer sur le chemin de Dieu? Et de façon concrète, encore une fois, j'ai l'impression qu'on est parfois immergé dans un contexte qui nous fait oublier cette perspective parce que nous raisonnons beaucoup en termes d'intérêt général. Alors, je ne me suis pas présenté en ces termes tout à l'heure, mais autrefois, dans une vie antérieure, si j'ose dire, j'ai enseigné l'économie. Et comme professeur d'économie, j'expliquais à mes élèves qu'on avait une grande maxime en économie qui était liée à un économiste et philosophe du XVIIIe siècle, Adam Smith, qui disait que l'intérêt particulier rejoint toujours l'intérêt général. Et je crois que cette maxime, mine de rien, sa petite musique, s'est installée dans nos esprits actuellement dans un cadre qui dépasse le strict cadre économique et qu'on raisonne souvent en se disant « J'ai juste à poursuivre mon intérêt particulier, ou l'autre a juste à poursuivre son intérêt particulier, et puis ça va converger vers quelque chose qui nous satisfera tous et toutes, finalement, comme par magie. » D'ailleurs, Adam Smith parle d'une main invisible qui fait converger ses différents intérêts. Je crois que cette petite musique, elle n'est pas très chrétienne, mais elle nous habite tous et toutes. Je vous donne un exemple très concret. Il m'arrive de faire du covoiturage. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je suppose que oui, comme conducteur, soit comme passager. Et donc, de me retrouver avec des gens qui ne me connaissent pas, soit que je prends comme passager, soit avec lesquels je roule. Et puis, pendant les trajets, évidemment, on discute un petit peu. Je ne fais pas toujours du covoiturage en habit dominicain, ou bien avec forcément un signe distinctif très évident. Mais au fur et à mesure de la discussion, forcément, je suis amené à évoquer un tout petit peu qui je suis et ce que je fais. Bon. Et alors là, il y a souvent des réactions assez contrastées. Je vous en cite deux qui vont directement dans le sens de ce que j'évoquais à l'instant. Un jour, je discutais donc avec la personne qui était conductrice, qui me demande ce que je fais. Bon, elle m'écoute poliment, et puis à la fin, elle me dit « Est-ce que vous êtes content ?» Oui. Enfin, j'avais envie de dire des fois oui, des fois non, mais enfin, je veux dire, bon, globalement, oui, je suis content de ma vie. Alors, elle me dit, ah ben, très bien, c'est l'essentiel. Et puis, on passe à autre chose. Bon, voilà, très bien, je veux dire, j'étais pas forcément là pour m'apesantir sur le sujet, mais c'était assez étonnant. J'avais l'impression que je lui aurais dit que j'étais adorateur d'escargots au pied d'un chêne sacré. Elle aurait réagi à peu près de la même manière. Si j'étais content, elle était satisfaite. Bon. Deuxième attitude, aussi de quelqu'un comme ça avec qui je voyageais, Pareil, même contexte, je dois évoquer un petit peu quelles sont mes activités, si j'ose dire, ou mon état de vie. Et alors là, la personne qui n'était pas du tout non plus chrétienne ou croyante, et pas du tout alphabétisée, on va dire, encore dans le christianisme, entre dans une fureur noire, hein, pas contre moi directement, mais en disant « Ah, mais je ne comprends pas du tout ce type de vie, vous vivez en marge du monde, je ne comprends pas qu'on se prive de tout ce qui rend l'homme heureux, etc. » Enfin, elle était vraiment très, 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 très virulente contre tout ça. J'ai eu droit à tout. Hein. Comment vivre sans enfant? Comment se priver de sexe toute sa vie? Enfin, voilà. Moi, j'étais au volant, j'écoutais un petit peu ce qu'on me racontait. Mais, mine de rien, même si la deuxième m'avait un petit peu plus provoqué, je crois que c'est quand même elle qui est plutôt dans cette perspective de bien commun, c'est-à-dire que ce que je vis la touche profondément. Ce que je vis la révolte, bon, et je n'étais pas là pour lui dire que je ne comprenais pas sa révolte, c'est vrai qu'il y a quelque chose de révoltant quelque part ou de choquant à embrasser ce type de vie. Mais elle réagissait, et elle réagissait en disant ben, « Vous ne pouvez pas être heureux comme ça. » Et ça me fait du mal. Et on sentait qu'elle était motivée par ce fait que ça lui faisait du mal, qu'elle estimait que je n'arriverais pas à être heureux dans un mode de vie comme celui-là. Alors que la première, c'était typiquement cette logique de l'intérêt particulier qui rejoint l'intérêt général. C'est-à-dire, vous êtes content, ben, si vous êtes content, on vit dans cette espèce d'état un peu mou, encore une fois, où, bon, ben voilà, si vous vivez bien, tant mieux. Alors, je crois que cet élément nous indique que la bienveillance, elle doit tenir compte de cette perspective du bien. Elle ne doit pas hésiter à dire qu'il existe un bien pour l'autre, et un bien sur lequel nous sommes justement appelés à veiller, sur lequel nous sommes responsables pour l'autre. Et qu'on n'est pas indifférent, non seulement à ce que vit l'autre, mais on n'est pas indifférent non plus à ce qu'on peut considérer comme étant le bien de l'autre. Évidemment, il ne s'agit pas de vivre à sa place, mais il ne s'agit pas non plus d'imaginer qu'on est indifférent et qu'il est le seul maître, finalement, de la définition de ce qu'est son bien pour lui. Parfois, une belle marque d'amour, ça peut être de dire à quelqu'un, peut-être un peu comme cette personne que j'évoquais tout à l'heure, « Pour moi, tu te trompes. Je te garde toute mon estime, je te garde ma présence, mon amitié, mais je pense que là, tu fais fausse route. » Ça demande parfois un certain courage, mais ça implique aussi que soi-même, on soit assez au clair sur ce qu'est le bien, et sur parfois certaines limites qu'on n'a pas à franchir et qui peuvent être dangereuses à franchir. Et cette logique, elle vient du fait que ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle dans la tradition le bien commun, il nous concerne tous. Et que le bien de l'autre, il fait partie de mon bien. Pas seulement comme un élément extérieur, hein, pas seulement comme une bonne action que je poserai en disant ah ben, c'est bien cette personne qui s'est garée, je l'ai ramenée dans le bercail et donc j'ai gagné un point ciel qui me sera compté quand je serai devant Saint-Pierre. C'est même pas ça, c'est déjà pour la vie présente, c'est-à-dire se dire le fait que l'autre vive bien, ça ne veut pas dire soit content, mais vive bien, c'est quelque chose qui participe dès aujourd'hui à mon bien, qui participe au fait que je vis de façon plus entière dans le bien. Et c'est exactement ça l'idée du bien commun. La règle de saint Augustin, qui est notre règle aux frères et aux sœurs dominicaines, le dit, je la cite, « Plus vous aurez souci du bien commun avant votre bien propre, plus vous découvrirez votre progrès. » Et je crois encore une fois, là je reviens sur un terrain plus ecclésial, on perd de nouveau beaucoup cette logique du bien commun dans notre Église aujourd'hui. Je vous donne deux exemples. Vous avez peut-être un peu l'impression qu'on fait un certain nombre de détours, mais voilà, c'est aussi pour que vous puissiez, qu'on puisse réfléchir et débattre ensuite peut-être sur encore d'autres points. Et je crois qu'il y a vraiment un lien avec tout ça. Premier exemple, la manière dont aujourd'hui on parle des vocations. Moi, souvent, je m'arrache les quelques cheveux qui me restent encore un peu sur la tête quand je vois certaines affiches. Notamment, j'en ai vu une récemment, qui stipulait, avec la photo d'un jeune homme bien sous tout rapport, sans doute un acteur, parce que c'est souvent ce qu'on prend pour ce genre de photos, bon, qui disait « Est-ce que je dois suivre la voie de tout le monde ou suivre ma voie ?» Et alors le « ma » était souligné, était rouge, était voilà, limite clignotant, etc. Bon, c'est vrai, c'est une bonne question, il faut un certain courage pour pouvoir choisir la vie religieuse ou la vie sacerdotale, et donc suivre une voie qui est effectivement une voie à laquelle, à un moment donné, on répond soi-même de façon personnelle, c'est vrai. Mais ce qui était frappant dans cette affiche, et aussi dans un spot publicitaire sur les vocations, c'est qu'il n'était fait à aucun moment, par exemple, référence de l'Église ou de la communauté. C'était toujours moi, petit individu avec mon Jésus, et mon Jésus m'appelle, à moi j'hésite, j'hésite pas, et puis finalement si j'hésite pas, je vais voir le prêtre ou l'évêque qui donnera ensuite le tampon pour reconnaître ce que Jésus m'a dit dans mon petit cœur. Donc on est dans quelque chose qui évacue complètement la perspective, par exemple, est-ce que l'Église a besoin de moi? Est-ce que l'Église a besoin de prêtres? Est-ce que l'Église a besoin de moines? Est-ce que l'Église a besoin de moniales? Bon, dans l'histoire de la vocation de chacun, les choses s'agencent de façon différente. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, cet appel individuel qui est parfois structurant. Mais on ne peut pas présenter simplement la vocation comme étant quelque chose de strictement individuel. Il y a un bien commun qui doit nous animer tous et qui fait à un moment donné que, ben voilà, on doit être aussi cette vie. Beaucoup plus grave et beaucoup moins drôle, hein, je pense aussi au témoignage d'Isabelle de Golemin. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la rédactrice en chef du service religieux de La Croix et qui a écrit récemment un livre sur les cas de pédophilie dans le diocèse de Lyon en particulier. Mais elle élargissait son propos à beaucoup de cas qu'elle avait couverts comme journaliste et elle battait un petit peu sa coulpe, hein, aussi comme chrétienne, en disant souvent, on accuse par exemple les évêques, les responsables, en disant comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu venir les choses. Mais elle disait, moi, comme fidèle, il y a un certain nombre de choses que je savais, et j'imaginais toujours qu'il y avait un responsable qui allait traiter la chose. Mais moi-même, je ne me suis jamais dit, ah ben, le bien de mon Église nécessiterait qu'à un moment donné, je dise stop, ou je dise tel cas, il ne va pas, ou tel comportement n'est pas bon. Et ça, je crois aussi que c'est un élément sur lequel il nous faut réfléchir, même si, voilà, encore une fois, c'est des cas toujours compliqués et qui sont extrêmement délicats, mais je trouve que son témoignage disait quelque chose d'assez profond. Il ne faut pas non plus se sentir déresponsabilisé par la présence, par exemple, d'une hiérarchie, ou par le fait que des personnes sont en responsabilité de tel ou tel secteur. Nous avons tous aussi une responsabilité et une attention à avoir sur la vie de notre Église et sur la vie de notre monde. Je vous propose, pour mettre en avant cette importance du bien commun, d'écouter ce que aussi nous en dit l'Écriture à travers le livre des Actes des Apôtres. C'est le texte 3, je crois.